vue d'ensemble de l'actualité.
When you have the kind of inflection that we have, it doesn't all of a sudden turn around like that. So clearly in the next few weeks, we're going to have the same sort of thing, and perhaps even 2 or 3 weeks down the line, Martha, we may see a surge upon a surge. You know, we don't want to frighten people, but that's just the reality.
Réville PM.
Le docteur Fauci, donc, qui a déclaré, dans ce que vous venez d'entendre, qu'il fallait se préparer aux États-Unis à constater des augmentations de cas par-dessus cas par-dessus cas. Luc Lavoie, bonjour.
Oui, Bernard.
Évidemment, il faisait référence au rassemblement de la Thanksgiving américaine, là.
Oui, oui. Il a dit que ça va prendre d'à peu près 1 semaine à 10 jours, puis il va y avoir un upsurge, comme on dit. Ça va monter très haut le nombre d'infections, et c'est déjà très haut, hein. Je te dis. Parlons-en un peu de la COVID.
Oui.
Bon, au Québec, je le rappelle, là, on a annoncé aujourd'hui 1333 cas supplémentaires, 23 nouveaux décès.
Les hospitalisations qui se rapprochent du 700.
Ouais. 700, oui.
Hein?
Oui. Et à l'heure actuelle, 7056 décès depuis le début de la pandémie. Voilà, 693 personnes hospitalisées, 94 en soins intensifs, et on a quand même réalisé 27 115 tests pendant cette journée-là. En Ontario,
ils sont en train de perdre le contrôle. Là.
Ah, Toronto fracasse son record du plus de cas de COVID-19 en une journée depuis le début de la pandémie, 622 nouvelles infections lundi. Le record précédent, c'est-à-dire que c'est hier, là, mais c'est ce matin qu'on a eu les nouvelles. Le record précédent dans la ville Rennes était de 566 cas, et ça, c'était samedi dernier. Donc, ça arrête pas de monter. Là. L'Ontario recense 1746 nouveaux cas, et ça porte le bilan à 116 492 depuis le début de la pandémie. Le nombre moyen de nouvelles infections par jour dans la province au cours de la dernière semaine est de 1570. Il y a 618 hospitalisations, un nouveau sommet depuis le début. Voilà.
Oui.
Dans le monde, la pandémie est rendue à 1 460 000 morts. Dans la journée de dimanche, 7007 nouveaux décès et 502 826 nouveaux cas. Et les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leur dernier bilan sont évidemment les États-Unis, 822 nouveaux morts, l'Italie 541 et l'Inde 443. Et là, évidemment, on vit aux États-Unis dans l'attente de la vaccination massive.
Ouais.
Il doit y avoir une réunion le 10 décembre du comité consultatif de la Food and Drug Administration en vertu de la procédure d'urgence. Et on s'attend que dans les 24 heures qui vont suivre, l'autorisation d'urgence sera donnée. Et d'après ce que j'ai vu en fin de semaine et vu aujourd'hui, la logistique est en place, les avions sont prêts sur les pistes à décoller. C'est vraiment... Ils sont prêts, ça va aller très, très vite.
Mais m'a dit, ils ont intérêt à ce que ça aille vite, là, Luc, là?
Ah ben, ils vont aller pas mal plus vite que nous autres, parce que ça commence à m'inquiéter pas mal, là, Bernard. Franchement, là, ils vont commencer à vacciner dans 2 semaines aux États-Unis, puis ils vont y aller à coups de millions et de dizaines de millions. En janvier, ils prévoient 30 millions, en février, 40 millions. Nous autres, notre petit Justin, il nous dit qu'on va peut-être en avoir en mars, puis un petit peu avant. T'sais, un petit peu avant.
Il a dit 3 millions
d'ici le 1er mars. Mm. 3 millions, c'est 6-7% de la population canadienne, ça. Il faut qu'on monte rapidement à 60%. Je sais pas comment il a négocié ses affaires, là, mais moi, je trouve ça... Ah, de c'est pas bien, bien impressionnant.
Bon. Parlons un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis, parce que mine de rien, Biden fait toutes sortes d'annonces, là, par rapport à ses conseillers, à son entourage, notamment son équipe de communication. Là, il s'est foulé la cheville en promenant.
Non, c'est pas ça. C'est une fracture.
Ah, c'est une fracture.
Ils ont cru au départ que c'était une entorse au pied droit.
Ouais.
Monsieur Biden était chez lui en train de jouer avec un de ses deux bergers allemands, celui qui s'appelle Major. Et puis, le pied y a tourné, et puis on a cru que c'était une entorse, mais non. Il va devoir porter une botte orthopédique, là, tu sais, le genre, ça ressemble à une botte de ski, là,
ben oui.
Pendant plusieurs semaines, comme s'il y avait besoin de ça.
Et évidemment, Ben non, j'allais dire, pas nécessairement, mais comme c'est Trump, je vais rajouter, évidemment, Trump s'est moqué de sa mésaventure.
Ah ben, ça va de soi, ça va de soi. Alors, revenons à Biden et ses choix pour son cabinet. Janet Yellen, c'est l'ancienne présidente, là, ce qu'on appellerait ici gouverneur de la Banque centrale américaine, on la Fed. Et il l'a nommé à la tête du Trésor. Et il y a une équipe économique composée de minorités et de femmes. Hein? C'est quand même ça. Et parce que d'ailleurs, si la nomination de Janet Yellen était confirmée par le Sénat, elle devrait devenir à 74 ans la première femme à diriger le Trésor.
Qui est l'équivalent du ministère des Finances.
Puis elle a une grosse tâche, grosse tâche devant elle.
Oui, c'est sûr, parce que l'économie américaine ne veut pas. Elle aura subi des dommages comme la nôtre et comme toutes les économies du monde. Là.
Bien sûr. Alors, on parle peut-être un peu de l'Iran.
Ah oui, moi je veux que tu nous racontes là, les détails qui commencent à transpirer de cet attentat là, pour tuer le scientifique responsable du programme nucléaire iranien. Ça se confirme d'abord que c'est bel et bien le Mossad. Hein? Il y a pas mal de sources qui le disent.
Ah oui, puis même que Netanyahou fait des clins d'œil, tu sais, je veux dire franchement. Et là, il y avait un article dans le Daily Mail d'hier.
Oui.
Et qui, écoute, ça, wow!
Oui,
c'était une opération ultra sophistiquée.
Inédite, qui
impliquait 62 personnes. Et essentiellement, ce monsieur qui a été assassiné, Fakhri Zadeh, qu'on appelait le père de la bombe atomique nucléaire, la bombe atomique iranienne, il voyageait sous très, très haute sécurité. On le savait que c'était une des cibles visées par Israël depuis des années. Alors, il voyageait dans un convoi de véhicules blindés. Et le premier véhicule qui était en avant, qui est un véhicule blindé, ce que les commandos, parce que c'était ça qui, de ça qu'il s'agissait, ont fait, c'est qu'ils ont mis une bombe ultra puissante. Alors, parce qu'un véhicule blindé, ça se défait pas en mille morceaux comme l'autre type, ça devient plutôt tordu et tout. Ça a permis à 12 commandos de sortir de leur cachette à côté de la route et de tirer. Et il y avait même une mitraillette télécommandée. Et pire encore, il y avait des snipers qu'on appelle des tireurs d'élite, qui étaient cachés dans il y avait le début des montagnes. Ils étaient donc à peu près à 500 mètres, un demi-kilomètre. Et les gardes du corps, qui étaient très nombreux, au moins une douzaine, se sont mis à retourner le feu qui venait vers eux. Et là, les 12 commandos les ont abattus un par un. Et les snipers, en particulier. Et le bout qui est vraiment, c'est que la voiture de M. Fakhri Zadeh était une voiture très blindée. Alors, ils n'ont pas réussi il avait beau tirer dedans, ils ne l'atteignaient pas. Alors, il y a un des commandos qui est parti, il a ouvert la porte, il l'a pris par le collet, comme on dirait ici, il l'a sorti, puis il a tiré 3 balles dans la tête devant tout le monde.
Une exécution,
bang, bang, bang. Et il y avait, tout ça était guidé par des satellites d'espionnage. Et en fait, on n'a pas encore de détails sur les transports, mais c'était tellement coordonné que au moment où la bombe a sauté, la ville de Téhéran a perdu l'électricité.
Hein?
Parce que ça faisait partie du plan des commandos. Il y avait quelqu'un qui coupait l'électricité parce que ça retardait les services policiers, les services d'urgence. Alors, t'as l'explosion du camion, puis t'as une panne de courant sur toute cette ville de 15 millions d'habitants.
Parce que l'assassinat s'est déroulé dans une des banlieues
Juste à l'entrée. En fait, je regardais des images. C'est comme une bretelle qui te mène vers le centre de Téhéran. Donc, une banlieue proche. Comprends-tu, les satellites guidaient l'affaire. Ils ont passé 2 semaines à suivre Fakhri Zadeh de toutes les façons pour voir c'est quoi ses habitudes. Puis il savait que le vendredi, il allait aller à une réunion hebdomadaire. Ils l'ont attendu, ils ont mis le piège en place. Et en l'espace, Bernard, d'à peu près 15-20 minutes, il n'y a plus rien. Ces gens-là sont disparus dans la nature. Les fameux commandos, qu'on appelle les Kaidon, c'est que les escadrons de la mort qui appartiennent au Mossad et qui sont entraînés pour être des commandos, comme dans les films. Là.
Oui.
Et ils sont disparus. On ne sait pas. Ils sont venus comment...
Il n'y a aucune victime de leur côté. Il n'y a aucune
victime.
Aucun des commandos qui a été tué par les gardes du corps de Fakhri Zadeh.
Non, aucun. Et non seulement ça, aucun qui a été blessé.
Ben
tandis
voyons donc.
Que de l'autre côté, ils en ont tué au moins une dizaine. Alors, tu comprends qu'on est en avant ici de commando. D'abord, il devait avoir des gilets pare-balles ultra sophistiqués, mais c'est surtout des tireurs, comprends-tu, d'élite qui tirent sur des dizaines à distance, là, c'est des... et entraînés, et surtout, pour avoir lu récemment un livre où les Kaidan étaient en action, tout est planifié dans les moindres détails, tu comprends? Alors, c'était assez... assez impressionnant et épeurant.
Et puis, évidemment, là, tu as des commentateurs qui regardent ça puis qui disent Israël a réussi ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire de l'assassiner, mais ça pourrait lui avoir créé des problèmes « down the road », comme dirait l'autre en latin. Là.
Ça dépend du point de vue. C'est certainement pas le point de vue de Netanyahou.
Ah non!
Netanyahou veut détruire tous ceux qui dirigent l'opération nucléaire iranienne, c'est tout. Là.
Mais de ceux qui pensent que l'Iran pourrait éventuellement se venger, là, y en, tu sais, je veux dire ça...
Laisse-moi en douter.
Parce que
si jamais l'Iran veut déclencher le moindrement une attaque d'une forme ou d'une autre, ils vont se faire, comprends-tu, ils vont se faire zigouiller. Je veux dire, l'armée israélienne est considérablement plus puissante que l'armée iranienne. Elle est appuyée par la 5e flotte américaine qui a 90 avions de combat.
Ouais, mais je suis pas sûr que les Américains embarqueraient là-dedans, moi, Luc. Là.
Moi non plus, mais si tu comprends, tu connais la théorie de l'escalade. Hein. Mm. On part... puis c'est pas supposé d'arriver, puis tout à coup, oups, il y a un accident, puis oups, puis on est en pleine guerre frontale. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tout le monde va rester tranquille jusqu'à ce que Biden soit assermenté,
puis
on verra après.
Je t'ai envoyé un papier en fin de semaine pour te dire l'analyse qui était faite, c'était l'analyse que nous faisions, nous, en ondes vendredi, c'est-à-dire que l'assassinat de Fakhrizadeh a certainement été autorisé par Trump, et l'objectif commun de Trump et de Netanyahou, c'est de miner le terrain pour empêcher Biden de
refaire revivre l'accord nucléaire.
Sur le nucléaire. De placer, dans le fond, les Iraniens dans une situation où, aux yeux de leur opinion public, de se réasseoir avec les Américains n'a pas de sens, n'est pas acceptable, parce qu'il faut d'abord venger la mort, pas juste de Fakhrizadeh, mais des autres aussi qui ont été assassinés auparavant, dont le responsable des forces d'élite, des gardiens révolutionnaires. Donc, ils veulent, Trump et Netanyahou veulent créer des conditions pour faire en sorte que les Iraniens ne puissent pas retourner à l'accord
exactement.
Sur le nucléaire.
C'est exactement ça leur but.
Voilà. Et on verra. Toi, ce que tu dis, c'est pas clair qu'ils vont réussir. C'est pas clair que Netanyahou et Trump auront réussi parce que tu prends pas pour acquis que les Iraniens ne voudront pas s'asseoir avec Biden.
Non, je prends pas ça pour acquis, puis je pense que les Iraniens ont intérêt à faire baisser un peu la pression.
Juste avant de se laisser, la première ministre écossaise qui envisage un référendum sur l'indépendance dans l'année prochaine.
Cette année, en 2021, elle va se présenter devant l'électorat. Elle est très en avance dans les sondages. Et comme tu sais, il y a eu un référendum, ça fait quoi, 4 ans ou 3 ans, Bernard, le référendum en Écosse, je l'avais sous les yeux.
C'est 2014.
Ouais. 55% des Écossais ont rejeté l'idée de l'indépendance, mais là, les conditions ont dramatiquement changé avec le Brexit.
Les Écossais veulent rester dans l'Europe, eux autres.
Oui, puis ils ont voté massivement pour rester dans l'Europe. Ouais. Et ils ont un besoin économique quasi vital de rester dans l'Europe parce que c'est une économie qui repose sur les services financiers. Et les services financiers, dans le Brexit, là, ça y goûte pas mal. Et souviens-toi qu'on s'en va vers un Brexit dur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord de libre-échange avec l'Europe. Il n'y a strictement rien. Et à l'heure actuelle, le Royaume-Uni traverse une très, très sérieuse récession.
Donc, les Brits, les Anglais, en fait, ont voté pour sortir de l'Europe, mais une majorité d'Écossais a voté pour rester. Mais comme ils font partie de la Grande-Bretagne, ils sont pognés pour sortir, eux autres aussi, hein, ils sortent. Et là, dans le fond, le programme de l'indépendance, ce serait de dire, on fait l'indépendance, puis nous, on réintègre l'Europe.
Imagine que cette dame-là, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle
Nicola Sturgeon.
Il y a un sondage Ipsos qui dit que l'appui du public à sa gestion de la pandémie en Écosse est à 72%. Des chiffres qui ressemblent à François Legault. Alors,
et l'appui à l'indépendance s'est raffermi aussi dans la foulée justement du référendum pour sortir de l'Europe.
Et le problème, c'est que pour tenir un référendum en Écosse, ça a été le cas en 2014 aussi, il faut que le gouvernement central donne son feu vert. Ouais. Sinon, ça va donner ce que ça a donné à Barcelone. Là, tu... Alors, ça, c'est pas très, très facile, mais voici ce qu'elle a dit. On va terminer là-dessus. Madame Sturgeon, elle a dit « La question que vous devez vous poser est la suivante. À qui faites-vous confiance pour reconstruire notre économie? Au gouvernement écossais que vous avez élu ou à la bande de Brexiters de Boris Johnson? » Alors, je pense que ça va être intéressant à suivre au printemps.
Absolument, Luc. On se reparle en fin d'émission.
À tout à l'heure.
On s'en va à la pause. Au retour, on va parler à cet enseignant belge à qui on avait parlé il y a un certain temps de ça. Il voulait venir nous aider, il voulait venir enseigner. Et puis finalement, ben, il a réussi à poser ses valises avec toute sa famille au Québec. On lui parle après la pause.